rêve d'un monde, monde nouveau.
Merci d'être au rendez-vous de cette émission psychologique, amis auditeurs, auditrices de Radio Maria. Bienvenue à l'émission Voici mon problème. Bonjour Papa André.
Bonjour Maman Régine et bonjour à tous nos chers auditeurs.
Nous poursuivons ces chapitres sur la crise dans la vie du couple comme opportunité de croissance et le sous-thème, la crise de l'âge adulte moyen. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Alors, la dernière fois, nos échanges ont porté sur la crise du jeune âge adulte. À ce jour, pardon, à ce propos, nous avons insisté sur l'intimité qui est la principale caractéristique psycho-affective de cette tranche d'âge dans le développement psychosocial de la personne. L'intimité est à comprendre au sens de la capacité à partager à fond sa vie privée avec une personne, un groupe de son choix. C'est la capacité à se rendre accessible pour autrui dans ce qu'on a de plus personnel et de plus confident. Lorsqu'on est globalement incapable de l'intimité, alors on souffre de ce qu'on appelle l'isolement affectif. Celui-ci peut alors être à l'origine de difficultés dans la vie relationnelle, notamment au sein du couple et de la famille. Cela était pour la fois dernière. Pour notre causerie d'aujourd'hui, il s'agit de la crise de l'âge adulte moyen. C'est l'âge qui va plus ou moins de 35 à 60 ans environ. Qu'est-ce que c'est que donc la crise de l'âge adulte moyen? Pour bien répondre à cette question, il faut essayer de comprendre la plus grande caractéristique dans cette étape du développement psychosocial de l'individu. D'où notre première question. Quelle est la plus grande caractéristique de l'âge adulte moyen? Il semblerait que pendant cet âge, toute personne psychologiquement saine est, pour ainsi dire, obsédée par l'idée d'être responsable. C'est donc le sens de responsabilité qui est la caractéristique majeure de l'âge adulte moyen. Et que signifie alors être responsable? Eh bien, la responsabilité dont il est question ici dépasse la simple capacité de répondre de ses actes et d'en assumer les conséquences. Être responsable signifie avant tout et surtout être capable de se prendre en charge, ainsi que la volonté et le désir d'avoir des gens à sa charge. Il s'agit donc de la capacité d'être responsable autant de soi-même que d'autrui. Et c'est cela la grande marque de l'âge adulte moyen. C'est autant dire que la responsabilité est synonyme de sollicitude. Se sentir concerné par le sort d'autrui et s'y intéresser véritablement. La responsabilité est donc souci, c'est-à-dire une saine préoccupation pour soi-même, pour autrui et pour l'environnement. Souci de travailler pour donner un sens à sa vie, ça veut dire donner une orientation et une signification à sa vie. Souci d'être un facteur de réussite pour autrui. Souci pour que l'environnement soit véritablement une maison commune où chacun a la chance de vivre dans la dignité. Il en découle qu'un style de vie ou des comportements foncièrement marqués par l'irresponsabilité sont des symptômes d'un déséquilibre mental relevant de ce qu'on appelle la stagnation psychologique. Cela signifie que le déficit ou le manque de sens des responsabilités est un manque de croissance psychologique. Troisième question. Comment le sens de responsabilité se concrétise-t-il dans la vie d'un individu? À vrai dire, le sens de responsabilité va de pair avec une autre réalité connue sous le nom de générativité, autrement dit le désir d'être fécond, le désir de fécondité. Il semblerait que c'est pendant l'âge adulte moyen que le désir d'être géniteur serait à son paroxysme. À cet âge, on voudrait à tout prix être père ou mère. Il semblerait que, dans notre inconscient collectif, la parentalité serait la façon la plus indélébile de laisser nos traces sur cette terre des hommes. C'est la nature des choses, donc. Le sens des responsabilités se concrétise dans la générativité. Alors, étant donné l'importance de la générativité, que faire en cas de stérilité ou du célibat et que peut-on en dire un psychologue? Que peut en dire un psychologue? On l'aura compris, l'impossibilité d'être géniteur paraît un grand obstacle à la réalisation d'un désir aussi enraciné au plus profond du subconscient humain que celui de générativité. Pour beaucoup de gens, cette impossibilité est souvent vécue comme une grande frustration et un obstacle à l'épanouissement. On s'est marié pour fonder une famille, mais après un temps relativement long, les enfants n'arrivent pas, ce qui peut être frustrant. Il faut cependant souligner que la générativité ne devrait pas être considérée uniquement sur le plan biologique, car l'homme n'est pas que biologique. Dans notre inconscient, la générativité se traduit aussi par l'amour de produire des grandes œuvres pour marquer de sa propre empreinte son appartenance à la société. Ainsi, instinctivement, on veut prouver qu'on a été important et utile pour les autres. Engendrer les enfants et les élever avec amour, écrire des livres, construire des maisons, s'intéresser au bien de son groupe d'appartenance, se montrer altruiste envers ceux qui sont dans le besoin, se vouer à la philanthropie. Donc, autant d'expressions de ce désir d'être géniteur inscrit au plus profond de notre nature. Si la fécondité était considérée uniquement sur le plan biologique, alors on tiendrait pour malheureux et gens sans aucune valeur des personnes qui ont pourtant été des grands bienfaiteurs de l'humanité et se sont immortalisés par leur grande fécondité spirituelle. Ce que l'Église catholique qualifie de saint, par exemple, tel qu'un certain Benoît, saint Benoît, Ignace de Loyola, Jean Bosco, Padre Pio, Antoine de Padoue, Thérèse de Calcutta, François d'Assise, Dominique, Albert Ion, Jean-Paul II, pour ne citer que ceci, qui connaît vraiment le nombre exact de leurs fils et filles. Qui peut soutenir qu'ils ont été inutiles pour l'humanité? Tous ces héros de l'humanité ont été d'une philosophie de vie telle qu'ils ont essentiellement misé sur les valeurs de l'être plutôt que sur celles de l'avoir. Sans avoir eu d'enfants biologiques, ils ont énormément contribué à la construction d'un monde fraternel, juste et digne, ce dont nous rêvons tous. D'autre part, les grandes misères auxquelles nous pouvons assister au sein des couples et des familles, a priori, ne sont pas causées par la stérilité biologique. Des femmes chosifiées, humiliées, abandonnées, des maris trompés, exploités, ridiculisés, des enfants maltraités et tout simplement méconnus. Tout cela est un fruit de la stérilité psychologique et spirituelle. Et même si la stérilité biologique est dans beaucoup de cas un fardeau insupportable, c'est surtout à cause de la stérilité psychologique et spirituelle. Par ailleurs, le phénomène que nous connaissons tous, celui des enfants dits de la rue, est un phénomène dû au fait que beaucoup d'hommes et de femmes de notre société ont été merveilleusement féconds sur le plan biologique, alors qu'ils étaient misérablement stériles sur le plan psychologique et spirituel. Ils ont littéralement jeté à la rue leurs propres enfants, ceux-là même qui étaient censés être l'incarnation de leur amour. À vrai dire, ils ont jeté leur amour à la rue. Et si dans beaucoup de cas, ces enfants parviennent quand même à trouver une famille d'accueil, un centre d'hébergement pour une rééducation et une réinsertion sociale, c'est grâce à des hommes et des femmes d'une grande fécondité psychologique et spirituelle. Donc des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément biologiquement féconds. Cela étant, on devrait reconnaître que tourmenter ou répudier son conjoint à cause de la stérilité biologique, cela est une preuve non seulement de l'ignorance, mais surtout d'une stérilité psychologique et spirituelle. Une dernière chose, s'il vous plaît. Avec tout le respect et toute la compassion que nous éprouvons pour des couples durement éprouvés par la stérilité biologique, qu'il nous soit permis de dire ici quelque chose que nous considérons comme une vérité. Le désir et le souhait d'avoir des enfants sont complètement légitimes. Mais qu'on ne pense pas que les enfants sont un droit qu'on peut réclamer auprès d'un tribunal quelconque. Ne pas en avoir est certes une grande frustration, mais cela ne devrait pas être une raison de s'estimer malheureux, moins encore une raison de trahir son conjoint et de jeter à la poubelle tout ce qu'on a vécu et construit de beau et de grand en tant que couple. Car, répétons-le, lorsque on a une bonne philosophie de vie, on comprend que la générativité n'est pas que biologique. On peut être biologiquement stérile, mais immensément fécond sur le plan psychologique et spirituel. Inversement, on peut être d'une grande fécondité biologique tout en détruisant la vie que l'on donne à cause de la stérilité psychologique et spirituelle. En conclusion, psychologiquement parlant, il faut retenir que l'âge adulte moyen est la période pendant laquelle nous aspirons le plus intensément à être responsables. Ce désir plus ou moins conscient des responsabilités s'est traduit par le désir d'être fécond, se marier, avoir une famille, s'occuper de soi-même, s'occuper d'autrui. C'est cela la générativité. Si l'on est psychologiquement équilibré, cette générativité dépasse le simple cadre biologique, intègre toutes les dimensions de notre humanité et nous amène à prendre convenablement soin de nous-mêmes et d'autrui. C'est cela en fait la signification la plus profonde de la responsabilité. L'âge adulte moyen est l'âge du souci, l'âge d'une saine inquiétude pour soi-même, pour autrui et pour l'environnement. Autrement, on souffre de la stagnation psychologique, c'est-à-dire du manque de sens des responsabilités. Je voudrais chuter, par une pensée d'un savant qui a écrit ceci. « Ma vie est une tâche à accomplir. Si je ne le fais pas, alors qui le fera pour moi ? Si je ne le fais pas aujourd'hui, alors quand le ferai-je ? Et si je ne le fais que pour moi seul, alors quel type d'homme je suis ? Vivre, c'est être responsable. La responsabilité, c'est la générativité. Et la véritable générativité, c'est la fécondité selon les dimensions supérieures de l'être humain. Nous vous remercions.
Merci, Papa André Etandala. Des Rocs qui réalise cette émission va nous proposer un chant.
Thank you.
Merci Derok Mamba pour ces chants. Nous rappelons le numéro 081-99-66-098. Et l'émission Voici mon problème qui porte sur l'âge adulte moyen. Donc la crise de l'âge adulte moyen. Vous avez des questions à poser. 081-99-66-098. Bonjour Papa André Tandala, bonjour Maman Régine, ainsi que toute l'équipe et aux techniciens. J'aimerais savoir, Papa, comment assurer son âge adulte, car par moments il m'arrive d'avoir peur du vieillissement. Comment m'assumer?
Merci beaucoup. Une très bonne question, mais dont, en tout cas de mon point de vue, certains éléments de réponse sont possibles en parlant de l'âge adulte tardif. Donc, ce dont nous parlerons, si Dieu nous en fait la grâce, en tout cas dans la prochaine causerie. Comment assumer son âge adulte, c'est ça. Bon, aujourd'hui nous parlons de l'âge adulte moyen. Pour l'assumer, il faut être responsable. Être responsable, ça veut dire assumer sa générativité, sa tendance ou cette inclination naturelle de s'occuper de soi-même et de s'occuper des autres selon les trois dimensions de l'être humain. Et sur le plan physique, et sur le plan psychologique, et sur le plan spirituel. C'est ça, assumer son âge adulte moyen. Je pense que c'est en cela que doit consister quelqu'un qui veut vieillir vraiment dans... C'est en cela que doit consister la vie de quelqu'un qui veut vieillir dans la paix et la réconciliation avec soi-même. C'est un peu ça.
Voilà, on prend aussi un autre message. Bonjour à Papa André, merci pour cette émission. Est-ce qu'il y a une différence du point de vue de l'intelligence d'un jeune de 20 ans et celui de 45 ans, en dehors du physique?
D'un certain point de vue, la maturité intellectuelle atteint son point culminant avec l'adolescence. Le développement cognitif, c'est à l'adolescence que nous acquérons la capacité de raisonner comme des personnes adultes. Après ça, il faut seulement enrichir l'expérience pour que ces acquis-là de l'enfance, de l'adolescence puissent se confirmer et produire leurs effets pour le bien de la société. Sinon, entre à 40 ans, 50 ans, il n'y a plus de développement cognitif possible.
081-99-66-098, on va prendre aussi ces messages. On prend ces messages. Bonjour Papa André, bonjour Maman Régine et toute l'équipe de Radio Maria. Comment pouvons-nous réfléchir sur ceux qui se situent entre 40 et 45, mais qui ne sont pas responsables? Lorsque j'étais entendu parler, Papa André, vous avez dit à l'âge adulte moyen, on est responsable. Alors, il y a des ceux qui manquent cette responsabilité. Est-ce que c'est au niveau intellectuel, financier ou à quel niveau, Papa? Si vous pouvez nous aider, c'est Anne-Marie.
Merci beaucoup. Il faut dire que ce n'est pas toujours facile de comprendre ce propos que nous tenons parce qu'on n'a pas commencé par le début du développement psychosocial de l'individu. Le développement psychosocial commence à zéro, donc à la naissance. Et nous avons parlé des 8 étapes, non? Dans la partie introductive de ce thème, nous avons dit que le développement psychosocial de tout être humain connaît 8 étapes. Donc, de zéro jusqu'à la fin de la vieillesse, 8 étapes. Nous avons considéré seulement les étapes intermédiaires parce que c'est celles qui nous intéressent pour comprendre la crise qui peut, ou une crise qui peut arriver au sein d'un couple, au sein d'une famille. Alors, le fait que à 40 ans, ça veut dire pendant l'âge, la tranche d'âge adulte moyen, on ne se montre pas suffisamment responsable, très probablement, il y a le poids du passé. Il y a l'enfance qui n'a pas été bien suivie. Il y a l'adolescence qui n'a pas été bien suivie. Par conséquent, l'âge adulte peut en pâtir. Donc, si on ne se montre pas suffisamment responsable pendant qu'on a déjà 35-50 ans, c'est très probablement c'est parce que les étapes antérieures n'ont pas été une réussite pour ce qui concerne le développement psychosocial. C'est un peu ça.
Bonjour Papa André, est-ce que vous pouvez nous parler de la crise de la quarantaine ou la crise de milieu de vie?
Mais c'est ce dont nous sommes en train de parler. On pourrait nous aider, nous faciliter la tâche, parce que pour ne pas tomber dans les néologismes, qu'est-ce qu'on entendrait par crise de la quarantaine, hein? Nous parlons de la crise qui se développe ou se déclare pendant une tranche d'âge bien définie qu'on appelle l'âge adulte moyen. Et cet âge adulte moyen va plus ou moins des 35 jusqu'à 65 ans. Donc, votre quarantaine est comprise, votre quarantaine est concernée par la crise de l'âge adulte moyen. Alors, à 40 ans, on est supposé avoir un sens des responsabilités assez développé pour pouvoir s'occuper de soi-même, s'occuper de son groupe d'appartenance, notamment la famille, l'église, le quartier, etc., etc. Donc, savoir être utile pour les autres, c'est un peu ça. Donc, si on n'a pas suffisamment ce sens des responsabilités, ça peut dégénérer dans des comportements qu'on peut appeler des comportements symptomatiques, qu'il s'agisse de style de vie, style de manger, style de s'habiller, tout ça, ça rentre dans la responsabilité. Parce que une personne adulte s'habille, c'est sûr pour se couvrir, pour la décence, mais aussi pour donner un exemple. En quelque sorte, on s'habille convenablement pour être un bon exemple d'habillement, un bon exemple de manière de s'habiller pour les jeunes générations. Vous avez compris? C'est un peu ça.
Merci pour cette émission. Je me nomme Henri-Claude. Juste savoir comment je peux savoir si je fais une crise existentielle de la trentaine. Est-ce que entre femmes et hommes, il y a une différence par rapport à ce qui peut se manifester en dehors du physique?
Entre hommes et femmes, l'autre fois je disais les crises relatives aux différentes étapes du développement psychosocial sont les mêmes pour l'homme et pour la femme. Cependant, il y a une petite nuance du fait que dans l'expression de sa personnalité, dans l'expression de ses émotions, etc., etc., il y a un discours très important sur l'importance du biologique, donc des hormones, etc., etc. C'est ce qu'on appelle le tempérament. Alors, une femme qui n'a dans un domaine précis, qui n'est pas censée avoir la même quantité d'hormones qu'un homme, eh bien, va exprimer sa personnalité d'une façon, on va dire, différente de celle de l'homme. C'est un peu ça. Alors, comment je peux savoir si je fais une crise existentielle? Encore un gros mot. Qu'est-ce qu'on peut entendre par crise existentielle? Bon. Il faut dire que il y a des questions fondamentales qui doivent nous préoccuper à un certain moment de notre histoire, de notre vie. Quel est le sens de ma vie? Est-ce que la manière dont j'oriente, j'organise ma vie, je peux prétendre à être heureux? Est-ce que je suis vraiment heureux? Quelles sont les valeurs les plus fondamentales, les plus sûres sur lesquelles j'oriente ma vie? Sur lesquelles je fonde ma vie? Est-ce qu'il m'est permis d'espérer qu'après cette vie, il y en aura une autre? Ce sont des questions existentielles. Et si ces questions n'ont pas suffisamment de réponses, on peut tomber dans ce qu'on appelle crise existentielle. Donc, crise sur les questionnements, les questions fondamentales de la vie, de l'organisation de la vie. C'est un peu ça.
081-99-66-098. Bonjour papa, c'est quoi l'âge? Est-ce un simple chiffre qui ne fait qu'augmenter ou ça va avec certains comportements? Car dit-on, la jeunesse et la vieillesse est dans sa tête. Joseph Desmarais.
Wow, la vieillesse est dans sa tête. Bon, on peut répondre de façon très schématique. Il y a ce qu'on appelle l'âge chronologique et l'âge mental. L'âge chronologique, c'est l'équivalent du nombre de jours que vous avez déjà passé sous le soleil depuis le jour où vous êtes né. Alors, quelqu'un qui est né le 2 décembre 2000, aujourd'hui, il a comme âge chronologique 25 ans. C'est ça. C'est l'âge. Donc, le nombre de jours passés que vous avez déjà vécu sur cette terre. Alors, sur le plan du développement cognitif et psychologique, il y a certaines étapes qui correspondent, auxquelles correspondent certaines façons de penser, de se comporter. Eh bien, cette façon de penser ou ces façons de penser et de se comporter, ce qu'on appelle l'âge mental ou que vous pouvez appeler aussi l'âge psychologique. Alors, il est souhaitable, dans le meilleur des cas de figure, qu'à l'âge chronologique donné corresponde un âge de comportement et de manière de penser équivalent ou correspondant, n'est-ce pas, à l'âge chronologique. Vous avez compris? Donc, l'âge, ce n'est pas seulement le chiffre, c'est aussi une façon de penser. L'âge, ce n'est pas seulement dans la tête, c'est aussi dans tes cellules somatiques et même nerveuses. Parce que ton âge, c'est aussi ta biologie. C'est un peu ça.
081-99-66-098. Bonjour, Papa André. Merci pour l'émission. Juste une question, comment aider l'enfant à bien assumer son âge adulte? Je parle d'une tranche de 18 à 20 ans.
Très bien, je commence par un petit correctif. En psychologie, on cesse d'être enfant dès qu'apparaît la puberté. Donc, comment aider un enfant à assumer son âge adulte, ça me semble contradictoire parce que à 18 ans, on n'est plus un enfant, on entre dans l'âge adulte. Comment l'aider? Eh bien, c'est ce que propose aujourd'hui l'émission Voici mon problème. Il faut avoir un sens de responsabilité. Cela suppose qu'en amont, n'est-ce pas, un travail de suivi d'éducation aura été bien fait. Donc, si on n'a pas été bien éduqué pendant l'enfance, on n'a pas été bien suivi pendant l'adolescence, il est fort probable qu'on se complique la vie à l'âge adulte. Donc, pour que l'âge adulte soit vraiment positif, soit bien vécu, il faut commencer par l'éducation dès le bas âge, dès la naissance. Merci beaucoup.
Voilà, nous continuons à vous recevoir au 081-99-66-098. Quelles sont les différentes étapes de la crise?
Je ne comprends pas bien cette question. Quelle crise? De quelle crise elle parle?
Nous parlons de la crise, je pense, de l'âge adulte moyen. Je pense bien.
Bon, moi, je ne sais pas si on peut parler d'étapes, plutôt des manifestations. Vous avez compris? Lorsque vous atteignez un certain âge, eh bien, inconsciemment, vous vous sentez interpellé par certaines choses, par la société, par la famille, et vous-même vous posez des questions. Comment je vais m'organiser pour que je puisse aussi avoir un chez moi, un toit à moi? C'est déjà le début. Donc, vous voulez avoir une famille, alors il faut chercher des voies et moyens pour y parvenir. Alors, si l'organisation, votre propre organisation est telle que vous y parvenez, eh bien, ça c'est positif. Mais si vous n'y parvenez pas, eh bien, c'est la stagnation, c'est un peu ça. Donc, la crise de l'âge adulte moyen a deux pôles, chaque crise a deux pôles. Du côté de la réussite, c'est ici le sens des responsabilités qu'on nomme la générativité. Si ça n'a pas marché, c'est la stagnation. Donc, ça fait deux pôles, pas deux étapes.
Bonjour Papa André, une seule question, rien à voir avec les thèmes d'aujourd'hui. Comment comprendre les cris d'un enfant ou d'un bébé lorsqu'il se réveille la nuit chaque fois, il se met à pleurer? Comment on peut comprendre ces cris, ces pleurs-là, si j'ai bien compris?
Bon, le comportement d'un enfant qui n'est pas encore à l'âge de s'exprimer verbalement dépend d'un certain nombre de facteurs. Celui auquel vous faites allusion, un enfant qui pleure la nuit, ça peut avoir, entre autres causes, soit il a mouillé ses couches, donc il a besoin qu'on les change, soit qu'il a faim, soit qu'il a mal, colique, mal de ventre, de maux de ventre. Ça peut être qu'il a froid, il a trop chaud, tout ça, ça dépend. Ça peut être un enfant, il y a des enfants qui ont peur de l'obscurité. Mais il y a des enfants aussi avec un tempérament, comme on dit, un tempérament trempé. L'atmosphère peut être idéale, il a mangé, il n'a pas mouillé ses couches, il est très bien, mais il veut vous prouver que lui aussi existe et il se met à pleurer. Il y a des enfants avec un tempérament un peu comme ça, colérique, nerveux dès le départ. C'est ça.
081-99-66.
Mais, excusez, permettez-moi, j'allais oublier un élément très important en répondant à cette question. Si ça dure, allez consulter un pédiatre. C'est la moindre des choses par laquelle il faut commencer.
Voilà. Nous continuons à vous recevoir au 081-99-66-098. Nous parlons de l'âge adulte moyen, les crises qui peuvent se manifester durant cette tranche d'âge. Bonjour Papa André et Maman Régine. J'ai une question sur ma mère. Elle était auparavant très colérique, mais plus elle avance en âge, elle devient de plus en plus calme. Et je sais que je ne peux pas poser mon problème en se basant sur la vie de ma mère, mais c'est ma mère, car Papa André aime que chacun pose son problème.
Merci beaucoup. Ben, votre mère qui était souvent agitée, maintenant devient de plus en plus calme. Oui, c'est très intéressant. Est-ce qu'il est calme? Sereinement calme ou préoccupé est donc une sorte de retrait, une déprime en quelque sorte. Alors, le fait de ne pas être agité ne signifie pas forcément la sérénité. Il faut savoir si c'est la sérénité, tant mieux. Ça veut dire qu'elle s'est améliorée ou les choses se sont améliorées autour d'elle, alors ça va bien pour tout le monde. Mais si c'est un calme synonyme de tristesse, de retrait, on va dire de rébellion, ça existe. Hein? Une sorte de rébellion en psychologie, on dit qu'on rentre dedans. Je ne m'intéresse plus à mon entourage, je rentre, donc je me rebelle et voilà. Alors, il faut voir, ça peut être, on va dire, positif ou négatif, ça dépend.
Alors, il réagit en disant, là où elle pouvait s'énerver facilement, elle s'énerve plus, elle dit, elle revient sur ce mot, je n'ai plus l'âge pour ça.
C'est ça. Une rébellion, donc une résignation. Hein? Donc, elle a compris que vous, ses enfants, ses petits-enfants, vous n'en faites qu'à votre tête. Bon, elle a abandonné, Donc, une résignation. Ça peut être une résignation, non. Donc, un retrait, ce n'est pas très encourageant.
081-99-66-098. Joseph Desmarais revient. On va l'écouter.
Encore une fois de plus, Maman Régine, bonjour Papa Etandala et merci pour cette belle émission. Hein. Je pose encore ne fût-ce qu'une seule question. J'ai un homme qui arrive dans la soixantaine, hein, 58 ans, 60 ans, et à chaque fois que cette personne se fâche, physiquement, il n'est plus apparemment à mesure de réagir comme quand il était trop jeune avec brutalité, mais vous sentez vraiment qu'il meurt de rage. Il a la rage et il vocifère souvent des paroles. Mais quand j'étais jeune, À cette heure, j'allais déjà vous faire ceci, j'allais vous rosser, j'allais faire ceci ou cela. Comment on peut comprendre ce comportement-là? Est-ce que vous ne sentez pas que finalement la personne souffre plus ou elle a une certaine nostalgie de quand il fut ou quand il était jeune, il allait réagir comme ceci ou comme cela? Comment on peut soigner cette attitude sur le plan psychologique? Merci.
Merci à Joseph.
C'est une très bonne question, mais je vous prierai très amicalement d'être patient. On va en parler lors de la prochaine causerie, quand on parlera de l'âge adulte tardif. Voilà, c'est une très bonne question.
Bon, la question est déjà posée. Peut-être qu'il y a de ceux qui n'auront pas le temps de nous suivre lorsqu'on va aborder ça. Peut-être survoler.
Là, on me demande d'anticiper. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la dernière étape du développement psychosocial, qu'on appelle l'âge adulte tardif, qui commence autour des 60 ans, jusqu'à, comme on dit chez nous au Cameroun, jusqu'à, voilà. Eh bien, c'est l'âge qu'on appelle l'âge d'intégration, ou l'âge du désespoir. Quand on est dans l'intégration, ça veut dire on a conscience d'avoir fait ce qu'on devait faire sans avoir été parfait, mais quand même on a été utile aux autres, on a été suffisamment responsable pour soi, pour autrui, on est serein. On a envie de faire le grand-père, le grand-parent, d'être conseiller pour les jeunes. Donc, on ne regrette pas d'avoir jeté son temps quelque sorte. Mais si on est dans le désespoir, ça veut dire on est aigri. Ça peut être la déprime, ça peut être la colère, la révolte, le refus que les jeunes prennent la relève. C'est un peu ça. Si j'avais encore 14 ans, pardon, 40, 50 ans, vous sauriez de quel bois je me chauffe. Non, mon cher ami, vous avez compris. Est-ce que j'ai répondu à moi? C'est ça.
Oui.
Donc, c'est quelqu'un, un non-prof, ça, sans entrer dans le diagnostic, et avec tout le respect, probablement, il tend vers le pôle du désespoir, au lieu que ce soit le pôle de l'intégrité, voilà. Intégration, pardon.
On va aussi recourir à un autre message. Bonjour l'équipe de Radio Maria, merci à Papa André pour cette émission. J'aimerais savoir, Papa, comment surmonter les blessures intérieures. Je comprends que ça n'a rien à voir avec les sujets du jour, mais là, j'en souffre.
Merci beaucoup. Toute ma compassion et ma sympathie, maman. Ce que vous devez savoir, c'est que une blessure intérieure, si elle en est vraiment une, ne se dépasse pas, ne se guérit pas du bout du fil comme ça. Il faut un suivi en bonne et due forme. Et surtout, ça dépend de la profondeur de ces blessures. Donc, il y a de ces blessures intérieures qui vous gâchent la vie, vous pourrissent la vie, et vous avez tout intérêt à vous faire accompagner. L'accompagnement peut se faire par avec un psychologue ou votre pasteur. C'est question de toucher les nerfs sensibles, les points sensibles. Je vous encourage. Pour votre sincérité, merci et bravo. Mais faites attention, ne pas laisser passer trop de temps parce que ça peut être difficile de vous aider à la fin.
Bonjour, maman Régine. Prière de nous donner un programme pour cette émission, c'est Roger depuis Calémie. Bon, voilà, Roger depuis Calémie. L'émission, c'est chaque mardi autour de 9h35-40. Donc,
heure de Kinshasa.
Heure de Kinshasa, bien entendu. Chez vous, c'est 10h, autour de 10h35-40 minutes. Vous aurez donc cette émission. Vous pouvez aussi aller sur notre site, hein, le www.radiomaria.cd. Vous pouvez trouver aussi cette émission déjà là-bas dans notre banque de données. Alors toutes les émissions, bon, pas toutes les émissions, mais une grande partie quand même, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil là-bas. Vous allez donc vous servir. Roger, depuis Calémie, le rendez-vous c'est chaque mardi à 10h de chez vous, voilà, 10h40 de Calémie, 9h40 de Kinshasa, 081 99 66 0 98. Bonjour Papa André et Maman Régine, juste vous remercier pour l'émission. Pour ceux qui n'ont jamais consulté un psychiatre ou un psychologue, comment faire? Car nous avons dans nos têtes que lorsqu'on va voir un psychologue, ça veut dire que tu es malade mental. Ce qui fait qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir les psychologues. Question, quand est-ce qu'on peut voir un psychologue?
Merci beaucoup. Alors, je suis d'accord avec vous, mais je vous conseille, quand vous consultez un malade, pardon, un psychologue, on dit que vous êtes malade. Non, on dit que vous êtes fou. Moi-même, on me dit ça. André, toi,
vous
tu soignes
les fous.
Non? Alors, quand est-ce qu'on peut voir un psychologue? C'est lorsque on remarque qu'on a un problème d'un bon fonctionnement avec soi-même, d'interaction avec soi-même, avec les autres. Ça veut dire, vous avez des choses que vous-même, vous reconnaissez que ça ne va pas. Malgré vos bonnes intentions, malgré vos efforts d'améliorer votre vie, d'améliorer vos comportements, d'améliorer vos relations en famille, au travail, à l'église, dans le quartier, eh bien, vous n'y parvenez pas. Ça veut dire, vous avez des problèmes assez sérieux sur le plan psychologique. Là, vous pouvez consulter un psychologue. Donc, on peut consulter un psychologue. Si vous parlez, un exemple très banal. Hein. Vous aimez tellement la bière que vous êtes incapable de vous en... Je ne dis pas que vous enivrez. Non, non. On peut aimer la bière en être esclave sans s'enivrer. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui sont dans la dépendance pathologique vis-à-vis de l'alcool alors qu'ils ne sont pas des ivrognes, ils ne s'enivrent pas. Eh bien, ça peut être le jeu de hasard. Hein? Vous dépensez beaucoup d'argent espérant pouvoir gagner un jour. Et vous ne gagnez presque pas. Quand vous gagnez, c'est 30 000 et tout va dans la bière. Vous avez compris? Vous pouvez consulter un médecin. Ça, vous avez un problème d'obéissance envers les parents. Vous pouvez consulter. Un problème du travail à l'école qui ne marche plus. Vous étiez toujours parmi les 10 premiers de la classe. Maintenant, depuis que vous avez eu vos 17 ans, 20 ans, ça devient compliqué. Faire 52%, ça devient un problème. Vous pouvez consulter un psychologue. Avant, vous étiez un chrétien bien assidu. Vous disiez bien vos prières. Après un temps, boum. Ce n'est pas seulement question d'envoûtement, consulter. Donc, pour tous les problèmes de la vie, vous pouvez consulter un psychologue.
Alors, une question. Bonjour, Papa André. Si la femme porte les pantalons à l'église ou des pantalons serrés, collés à l'église, est-ce que c'est bien ou c'est mal?
Question de décence, pas seulement à l'église. Moi, je vous pose une question tout à fait simple. Quand on vous invite par le bourgmestre, le chef de territoire, si vous êtes en milieu rural, hein, oui. Vous vous habillez comment? Avec ce qu'on appelle, excusez-moi ma mère, ce qu'on appelle le boukamapeka. Oui. Devant monsieur le maire, vous allez décemment. Et à l'église, vous rencontrez qui? Ce n'est pas le curé, ce n'est pas le pasteur ou l'imam à la mosquée, non. C'est le Seigneur que vous rencontrez. Et vous vous habillez comment? Il y a des gens qui ont commis des péchés, hein, parce que certaines personnes étaient mal habillées à l'église. Il va commettre des péchés à l'église parce que certains vont s'habiller de façon indécente. Donc, prenons soin de nous-mêmes et tenons compte que quand nous allons quelque part, nous rencontrons des gens importants et nous devons nous habiller. Quand nous allons à l'église, nous allons à la rencontre de Dieu, il faut bien s'habiller.
C'est par cette question que nous mettons le point final à cette émission. Dernier mot.
C'est aujourd'hui la causerie est autour de la responsabilité. Je vais relire seulement en guise de conclusion de mot de fin, maman, mot de la fin, cette pensée de ce monsieur que j'aime beaucoup. C'est un, Il était psychiatre, psychologue, philosophe, c'est un homme. Il a inventé même une théorie de psychothérapie qu'on appelle logothérapie. Ça veut dire aider les gens à avoir la santé mentale en les aidant à retrouver le sens de la vie. Voilà. Il dit ceci. Ma vie est une tâche à accomplir. Si je ne le fais pas, alors qui le fera pour moi? Je suis responsable de ma vie. Si je ne le fais pas aujourd'hui, alors quand le ferai-je? L'urgence s'impose. Et si je ne le fais que pour moi seul, alors quel type d'homme je suis? La sollicitude. Vivre, c'est être responsable. La responsabilité, c'est la générativité. Et la véritable générativité, c'est la fécondité selon les dimensions supérieures de l'être humain. Qu'il veut appeler Papa André, de Calémine, des Cires, partout où vous voulez, vous pouvez faire les 082 20 029 18. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa André. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Maria, d'avoir été présents à ces rendez-vous psychologiques. Merci d'avoir participé à travers vos questions à cette émission qui a porté sur la crise de l'âge adulte moyen. Merci aussi à Derek Mamba qui était à la réalisation. D'ici là, portez-vous bien et bonne condition d'écoute sur Radio Maria.
Rêve d'un monde, monde nouveau. Aimer la vie,
aimer ensemble.
Donner sa vie,
donner ensemble.
Choisir la vie,
choisir ensemble.
Aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve. D'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Payer de soi,
payer ensemble.
Risquer de soi,
risquer ensemble.
Chercher en soi, payer de soi, toujours risquer de soi pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Changer nos cœurs,
changer ensemble.
Rester veilleurs. Marcher sans peur,
marcher ensemble.
Changer nos cœurs, toujours rester veilleurs pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Bâtir demain, fleurir soudain,
fleurir ensemble.
Bâtir demain, toujours ouvrir les mains pour un monde nouveau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Rêve ensemble.